4 sur France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui, le mythe du maréchal Pétain.
France, écoute ce vieil homme sur toi qui se penche et qui te parle comme un père. Fille de Saint-Louis, écoute-le. Paul Claudel, Ode au maréchal Pétain, 1941.
Ans d'histoire. Si très peu de Français ont répondu à l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940, c'est que personne ou presque ne le connaissait. Les deux étoiles de ce général de brigade pesaient beaucoup moins lourd que l'immense prestige et les sept étoiles du maréchal Pétain. Depuis qu'à Verdun, 24 ans plus tôt, il avait repoussé les Allemands avant de commander l'armée française jusqu'à la victoire de 1918, Pétain était devenu un mythe, l'objet d'un véritable culte entretenu pendant plus de 20 ans par presque tous les partis et les journaux de l'entre-deux-guerres. Un culte sans lequel on ne comprendrait pas l'aveuglement ou la résignation de la majorité des Français lorsqu'en pleine débâcle, le 17 juin 1940, ce maréchal de 84 ans leur avait demandé d'accepter la défaite avant d'engager la France dans la voie de la collaboration.
Français, à l'appel de M. le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Didier Fischer, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand on parle de Pétain, aujourd'hui, c'est presque toujours à partir de 1940, de ce moment, on vient de l'entendre, il devient chef du gouvernement, avant de signer l'armistice, puis de mettre en place le régime de Vichy. Alors, sachant ce qui s'est passé depuis, il y a évidemment plus grand monde aujourd'hui pour prendre la défense de Pétain, ni même pour comprendre, d'ailleurs, sa popularité au tout début de l'occupation, car... Pendant le discours que l'on vient d'entendre, oui, il était déjà extraordinairement populaire.
Ah oui, il était extraordinairement populaire et il va le rester, j'allais dire, jusqu'en 1941 au moins, d'une certaine manière. C'est à partir de 1941 qu'on sent dans les rapports des préfets notamment un début en fait de décrochage de l'opinion publique, mais je peux dire même jusqu'en 1943-44 il reste une certaine popularité pour le maréchal Pétain, c'est évident.
Et alors les Français ne savaient pas bien sûr ce qui allait suivre, hein.
Bien sûr les Français ne savaient pas ce qui allait suivre. Cette popularité en fait elle s'était construite précédemment, elle s'était construite depuis au moins la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres et jusqu'en 1940. En fait c'est l'histoire de trois mythes en un. Le mythe Pétain, c'est le mythe du bon chef, c'est le mythe du héros national et c'est enfin à partir de 1934-35 le mythe du sauveur.
Alors c'est ce que vous dites justement dans un livre que vous venez de publier chez Flammarion, le mythe Pétain, Didier Fischer. Vous rappelez aussi d'ailleurs que ce mythe remonte à la Première Guerre mondiale, mais ensuite on l'a fait remonter beaucoup plus haut, on a rattaché Pétain à un passé beaucoup plus lointain de notre histoire.
Oui, tout à fait. Oui, on a rattaché Pétain, j'allais dire, au passé extrêmement lointain de notre histoire, parce qu'on pourrait le rattacher à Jeanne d'Arc, d'une certaine manière, qui a été, d'une certaine manière, la première, disons, le premier homme providentiel en termes d'image.
Sauf qu'elle a fait le contraire de Pétain,
elle a chassé les Anglais, effectivement. Mais c'était une femme, c'est ce que je dis d'ailleurs en commençant à travailler sur la question de l'homme providentiel. Le premier homme providentiel était une femme, d'une certaine manière.
Alors justement, vous rappelez ce qu'on a rattaché pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on a rattaché Pétain à un passé beaucoup plus lointain. Vous le rappelez à l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée en 1940 dans la forêt de Troncet, je crois, on dédiait un arbre au maréchal Pétain.
Un beau chêne, effectivement, était dédié au maréchal Pétain dans la forêt de Troncet. Le plus beau, je crois, à l'époque déjà de cette forêt, un chêne qui faisait une hauteur de 42 mètres, hein, et qui, dans cette forêt de Troncet, était un chêne qui avait été planté sous Colbert. Donc là aussi, on raccrochait le maréchal Pétain, déjà un passé prestigieux.
Alors c'était le 8 novembre 1940, voilà. Pétain accueilli justement par un de ses admirateurs, Jacques Chevalier.
Monsieur le maréchal, permettez-moi de vous présenter votre chêne. Vous êtes ici, au cœur de la forêt. Vous avez de vieux arbres, des balivaudes, qui datent de François Ier, ou quelques-uns peut-être de Jeanne d'Arc, ou même de Saint-Louis. Eh bien, maintenant, on viendra ici et l'on dira « cet arbre a été marqué par Pétain ». Pétain qui a sauvé 3 fois la France. Jeunesse de France, à Pétain, à la France. Vive Pétain !
Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas.
Alors dans cet archive qu'on a entendu dans la forêt de Troncet, c'est là vraiment, c'est effectivement à Jeanne d'Arc à Saint-Louis que Jacques Chevalier fait référence. Hein.
Bien sûr, c'est aux grands effectivement qui ont construit l'histoire de France et il rattache Pétain finalement à cette lignée-là, il lui donne une généalogie prestigieuse et c'est la généalogie du sauveur.
Alors il dit aussi, on l'a entendu, vous avez sauvé 3 fois la France. Alors nous sommes en novembre 40, la troisième fois c'est évidemment selon lui juin 40, bien les sûr. Deux premières c'est... La Première Guerre mondiale, c'est en 1916 à Verdun et en 1917 à la tête de l'armée française.
Oui, bien sûr, 1916 Verdun, 1917, c'est la question des mutineries. On a là en 1917 notamment une armée française qui met l'arme au pied. Les soldats font à cette époque-là ce que l'on a appelé la grève de la guerre. Et on est dans une situation qui pourrait être une situation catastrophique si en face les Allemands avaient été au courant de ces mutineries.
Oui, justement, comment expliquer sa popularité comme il en aura une auprès des anciens combattants? Il faut rappeler quand même que ces mutineries, eh ben, il les réprime brutalement. Il y a eu des fusillés quand même pendant cette période
d'édifiant. Il y a eu des fusillés, bien entendu. Il y a eu 500 condamnations à mort et 49 exécutés. C'est vrai qu'il y a une certaine sévérité dans la condamnation de ces mutineries, mais cette sévérité est relative, malgré tout. Elle est relative et ensuite, il va, d'une certaine manière, résoudre ces mutineries en améliorant l'ordinaire du soldat, notamment, parce qu'il ne faut pas oublier que cela fait 2 ans et demi que les soldats sont en guerre. Les permissions à ce moment-là se font rares. L'hiver 1916-1917 a été un hiver très dur et la grande offensive là, déclenchée par Nivelles en avril 1917 a fait quand même 40 000 morts en une journée. Donc on a là des soldats qui n'en peuvent plus de cette guerre. Ils étaient partis pour une guerre courte, ils vivent une guerre longue, ils n'en peuvent plus et Pétain a bien compris justement qu'il pourra résoudre ce problème-là en s'attachant à l'ordinaire du soldat, en s'attachant à améliorer les conditions de vie au front.
Soldat auprès desquels Didier Fischer est resté très populaire après la guerre.
Oui, 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 il est resté très, très populaire, bien sûr.
Et c'était pas rien d'ailleurs, parce qu'ils étaient 6 millions, leur poids était énorme après la guerre.
Oui, il représente un poids énorme dans la société française de l'après-guerre, un poids souvent de contestation d'ailleurs de l'ordre établi, contestation aussi d'une république qu'ils comprennent mal, qu'ils considèrent comme ne s'intéressant pas suffisamment à eux. Et ils développent à travers leurs associations, notamment, effectivement, ce que l'on a appelé aussi la revendication d'une réforme de l'État. Et effectivement, ils sont en prise, là, véritablement, avec ce que pense Pétain à l'époque.
Alors, on écoute justement Pétain rendre hommage à ses soldats en 1927 à Verdun, suivi de témoignages de 2 anciens combattants que j'avais interviewés en 1996.
Et tous ceux qui sont tombés ici et dont les restes sont recueillis dans ces cercueils se levaient. C'est une armée entière qui se dresserait devant vous.
Pétain était vénéré par les hommes parce que c'est un des premiers généraux qui savait que les balles tuent. Ça veut bien ce que ça veut dire pour nous.
Ça veut dire qu'il se préoccupait des soldats.
Beaucoup.
Actuellement, Pétain n'a pas la faveur. Eh bien, moi qui ne suis pas militariste, je dis vive Pétain. Si vous saviez comment il a organisé l'armée française qui était un peu en pagaille, il nous a donné une meilleure alimentation, il a assuré les permissions d'une façon plus régulière. Alors je dis, moi qui ne suis pas militariste pour un sou, vive Pétain. Alors qu'en France, on n'en veut pas entendre parler.
Ainsi que sur l'Isère, les hordes du Césaire, poussées par nos canons, s'amoncellent sur place. Fantassins, artilleurs, valeureux et sans peur, en les prenant de flanc, les détruisent en masse. Du général Pétain, la France de demain pourra se souvenir en lui dessinant l'offre de son admiration qui confondra les noms de Castelnau, Mauduit, de Montlouris, de Fabre. Ils ne passeront pas, on les aura, passons pas. Nos poilus résolus sont trop braves. Les Français ne sont jamais esclaves. Des têtes de poche ont appétit pour les départs. Ils ne passeront pas, on les aura, passons pas. Le succès est forcé pour nos armes, français ou pigeons, nos armes. On les aura, ils ne passeront pas.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le mythe du maréchal Pétain.
Et c'était une chanson de 1916, Marcelli, chantons, ils ne passeront pas, c'était la devise de Pétain à Verdun, Didier Fischer. Pourquoi est-ce qu'au lendemain de la guerre, c'est Pétain est si populaire et pas les autres maréchaux? Il y en a eu d'autres, il y a eu Franchet-Dépéré, il y a eu Joffre, Foch, Lyautey, pourquoi lui?
Pourquoi lui? D'une certaine manière, nos deux anciens combattants ont résumé un peu, ont résumé aussi l'ambiguïté du mythe. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui, effectivement, en 1916, dit « le feu tue ». Et il faut cesser les offensives inutiles. Et ça est compris, évidemment, par la troupe. Ils comprennent que cet homme, ce général, finalement, souhaite le bien-être même de ses hommes. Et c'est comme cela, ensuite, que se développe son image. L'image du bon chef, c'est avant tout l'image du chef près de ses hommes, du chef qui est plus un éducateur qu'un dresseur, en quelque sorte. Et c'est ce qui va faire la popularité, en partie, tout au moins, du maréchal Pétain dans l'entre-deux-guerres aussi.
Peut-être aussi le fait qu'il n'était pas un maréchal politique. Hein. Les autres se sont politiquement un peu compromis.
Oui.
Foch a tenu tête au gouvernement
sûr,
et au lendemain
oui.
de la guerre. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a nommé Pétain au Conseil supérieur de la guerre, Didier Fischer, au lendemain de la guerre. Il y restait une dizaine d'années, plus de 10 ans,
oui, oui,
à des responsabilités. Il était vice-président. Je crois que le président, c'était le chef du gouvernement.
C'était le ministre de la guerre.
Ministre de la guerre. Oui. Et alors, lui, il a en plus défini la doctrine française, la stratégie française de défense de la ligne Maginot. C'est la ligne Pétain, vous dites.
Bien sûr, oui, oui. C'est effectivement la ligne Pétain. Alors, oui, il a des responsabilités importantes dans l'entre-deux-guerres. Il est vice-président du Conseil supérieur de la guerre de 1920 à 1931. Il est nommé là, effectivement, parce que ce n'est pas un maréchal politique, comme vous le dites, et en plus, il a cette image de maréchal républicain. Donc, cela rassure plutôt les autorités politiques. Jamais, d'une certaine manière, il n'a critiqué ouvertement les autorités politiques, même d'ailleurs pendant la guerre, où un certain nombre de chefs militaires, de généraux, ne manquaient pas de critiquer la direction de la guerre que menait le gouvernement. Eh bien, lui, jamais, lui, il attendait au contraire des instructions du gouvernement pour mener la guerre.
Alors, en tout cas, cette période de l'entre-deux guerre et la période du développement du mythe Pétain qui a beaucoup évolué, qui a continué de faire son chemin, surtout dans les journaux de l'entre-deux-guerres, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Oui, dans la presse de l'entre-deux-guerres, le maréchal Pétain est un véritable héros national, surtout à droite où il incarne le chef idéal. Voilà par exemple comment le journal, c'est le nom de ce journal, le décrit en 1925. Ce maréchal, calme, bien droit dans sa sobre tenue kaki, le regard ferme et bon, donne à tous une impression profonde de force qui fixe tous les espoirs. À gauche, on admire plutôt ses qualités intellectuelles, sa sagesse. En 1931, par exemple, Léon Blum écrit dans Le Populaire, son journal, « Entre tous les grands chefs de la guerre, écrit-il, Pétain est celui dont la modestie, la gravité, le scrupule réfléchi et sensible imposent la sympathie. » Alors ce n'est vraiment qu'à partir de fin 1934, en pleine crise, que certains commencent à voir en Pétain un sauveur. En novembre 1934, le Petit Journal lance à ses lecteurs un grand référendum qui aujourd'hui fait frémir. La question, la voilà. Si la France devait choisir un dictateur, qui désigneriez-vous? Alors, suit la liste de 38 noms. Les lecteurs vont répondre massivement et donner en tête le nom, justement, du maréchal Pétain. Une des plus nobles figures de la France, affirme le Petit Journal, dans laquelle la bonté humaine s'associe harmonieusement à la gloire du vainqueur. En quelques mois plus tard, en février 35, c'est au tour de Gustave Hervé, le directeur du journal La Victoire, de lancer une grande campagne de presse pour faire barrage à la vague rouge. Pour sauver la France du régime des partis, c'est Pétain qu'il nous faut. À gauche aussi, quoique assez isolé, le radical Pierre Cotte, qui sera plus tard ministre du Front Populaire, pense aussi à Pétain comme recours en cas de guerre civile, en cas de coup de force des ligues d'extrême droite. Si les Français se battaient, Front National contre Front Populaire, qui vaincrait, demande-t-il dans le magazine Vu. Un homme dont le courage, la probité soient indiscutables, cet homme existe, affirme Pierre Cotte, c'est le maréchal Pétain. Alors après le péril intérieur, la menace de guerre qui se précise avec l'Allemagne. En avril 35, Léon Daudet affirme dans l'Action française « Le véritable président du Conseil à l'heure actuelle devrait être le maréchal Pétain. Le spectre de la guerre en serait momentanément écarté. » Et en 36, lorsqu'Hitler occupe la Rhénanie, Vladimir d'Ormesson, dans son éditorial du Figaro, invite les Français non pas à se battre, mais à se regrouper, je cite, « derrière Pétain, le seul homme qui incarne aux yeux du monde entier les vertus fortes, calme et humaine de la France éternelle. » Alors à l'époque, Pétain, prudent, aurait déclaré « Mais qu'est-ce qu'ils ont donc à faire appel à moi? Ce milieu d'intrigues d'ordre politique ne me convient pas. »
C'est extraordinaire, Didier Fischer. Oui. Je ne sais pas si vraiment il faisait pas un peu la coquette, là, mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette presse, c'est que, qu'il soit salué par la droite, on peut le comprendre, il était, je crois, très anticommuniste. C'était sa seule vraie prise de position politique.
C'est un conservateur, c'est un homme de droite.
Mais même des hommes de gauche, Blum, Pierre Cotte, lui rend hommage.
Et bien sûr, oui, c'est ce qui... Enfin, on constate bien que le lit politique, je crois que j'ai employé cette expression dans le livre, le lit politique du mythe Pétain, c'est un lit qui regroupe la gauche et la droite. Une gauche quand même relativement modérée, qui va jusqu'aux socialistes, qui ne va pas quand même jusqu'aux communistes. Les communistes ont un certain respect pour le maréchal Pétain, mais ça ne va pas au-delà. Hein. Ils ne vont pas faire l'apologie du maréchal Pétain dans l'humanité. Mmh. On ne trouvera pas d'apologie du maréchal Pétain dans l'humanité. On trouvera une certaine apologie du maréchal Pétain dans le populaire, par exemple. Hein. Léon Blum est quelqu'un qui admire effectivement le maréchal Pétain. Il l'admire en tant que chef de guerre. Il l'admire aussi en tant que maréchal républicain. Je le disais déjà tout à l'heure. Il admire cet homme qui représente pour lui aussi les valeurs profondes de cette France.
Alors, on voit aussi dans cette revue de texte, Stéphanie l'a remarqué, une évolution. Le mythe du héros de Verdun se transforme en mythe du sauveur. Oui. Et ça bascule en 34 parce qu'en 1934, il est appelé au gouvernement. Oui. Il faut rappeler que le 6 février 34, il y a eu les ligues qui ont manifesté. On a eu très peur de l'arrivée du fascisme en France. On demande à Gaston Doumergue, qui est un président plutôt sympathique, de former un gouvernement de coalition nationale. Et il prend Pétain. Hein. Pétain sort de sa réserve et de la réserve de tous les militaires pour entrer dans la politique et devient ministre.
Oui, il devient ministre en disant qu'il ne veut pas faire de politique. Mmh. Il ne s'occupera que des affaires de l'armée. Voilà ce qu'il déclare quand il devient ministre. Et il n'aurait, c'est ce qu'il dit, jamais été le ministre d'un gouvernement qui n'aurait pas été un gouvernement d'union nationale. Hein, et on voit bien là, toujours, la prudence. Mais c'est vrai, à partir de 1934, il va progressivement devenir le recours. Ce passage, en fait, à ce ministère attire l'attention sur le maréchal Pétain et on commence à voir en la personne, en l'image du maréchal Pétain, un recours politique possible, un sauveur possible, dans un contexte, ne l'oublions pas, extrêmement troublé. C'est un contexte, vous avez rappelé la manifestation des ligues du 6 février 34, mais c'est aussi une vraie crise économique, une vraie crise de société, une vraie crise de civilisation quand même que traverse la France à ce moment-là. Et dans ces moments difficiles, finalement, l'image de prestige, de droiture du maréchal Pétain, cette image, donc, d'une certaine manière, c'est une image qui... Comment expliquer cela ?
Qui rassure ?
Oui, qui rassure, tout à fait.
Alors c'est aussi période de crise, c'est aussi la période de la guerre d'Espagne, il faut le rappeler, qui a duré très longtemps. La France a rompu ses relations diplomatiques avec l'Espagne. Avec quelle Espagne d'ailleurs a-t-elle eu des relations, la République ou Franco? Et puis en 1939, un homme de gauche encore, un Daladier, le radical Daladier, désigne Pétain comme ambassadeur en Espagne. Une archive pâtée de 1939.
À Madrid, 230 000 hommes participent à la parade de la victoire. « 25 000 Italiens et 2 500 Allemands ont défilé les premiers devant le général Franco, entouré de son état-major et en présence des membres du corps diplomatique où la France est représentée par le maréchal Pétain. »
Alors c'était en 1939, Pétain, donc ambassadeur auprès de Franco. À quoi correspond cette nomination, Didier Fischer ?
cette nomination correspond à la nécessité effectivement d'un rapprochement entre la France et l'Espagne. Il faut mettre en application les accords Bérard-Jordana de cette époque, des accords qui normalement permettent ce rapprochement entre la France et l'Espagne, permet aussi à l'Espagne de récupérer ses avoirs, notamment en France, et le maréchal Pétain est à ce moment-là envoyé auprès de Franco, parce que justement il connaît Franco, il ne faut pas l'oublier, ils ont combattu ensemble au moment de la guerre du Rif en 1925, et c'est évidemment pour cela que Daladier fait appel aussi au maréchal Pétain. Le maréchal Pétain représente le militaire le plus prestigieux à ce moment-là en France.
Il faut rappeler qu'au moment où il se trouve en Espagne comme ambassadeur, c'est là que évidemment commence la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Il suit ça de très près, hein, de son ambassade en Espagne.
De très près, oui, de très très près. Il n'a pas voulu rentrer en France en 1939. Daladier, là, en septembre 39, avait fait appel à lui, mais il jugeait que le gouvernement Daladier n'était pas un gouvernement suffisamment d'union nationale et pas un gouvernement suffisamment restreint pour faire la guerre. Donc il a répondu par la négative à Daladier en disant qu'il restait en Espagne, mais dès le mois d'octobre, il regrettait d'être resté en Espagne et il envoyait des appels du pied pour rentrer en France.
Alors c'est là qu'en Espagne, donc, il apprend le début de la débâcle de 1940 après l'offensive allemande du 10 mai 40. Débâcle donc en plein milieu de laquelle le successeur de Daladier, le président du Conseil, le Premier ministre de l'époque, Paul Reynaud, eh bien le 18 mai 1940 fait appel au maréchal Pétain.
La situation est grave, elle n'est nullement désespérée. Voici les décisions que je viens de prendre. Le vainqueur de Verdun, celui grâce à qui les assaillants de 1916 n'ont pas passé, celui grâce à qui le moral de l'armée française en 1917 s'est ressaisi pour la victoire. Le maréchal Pétain est revenu ce matin de Madrid où il a rendu tant de services à la France. Il est désormais à mes côtés comme ministre d'État, vice-président du Conseil, mettant toute sa sagesse et toute sa force au service du pays. Il y restera jusqu'à la victoire.
Il n'y aura pas de victoire, mais en revanche, il y restera.
Il y restera, que, oui.
Hein, ça, c'était le 18 mai 40. Paul voilà. Reynaud demande à Pétain d'entrer dans son gouvernement. Un mois plus tard, Pétain le remplace. Et c'est l'armistice, c'est le début, bah, c'est la fin du mythe. Maintenant, Pétain devient effectivement le chef d'État. On a dit qu'il y a eu complot.
Non, il n'y a pas complot, en fait. C'est vrai, on a parlé de cette cinquième colonne qui aurait amené Pétain au pouvoir. Non, je ne pense pas, effectivement, que cette thèse du complot... tiennent face à l'histoire. Non. D'ailleurs, il y a une enquête parlementaire après-guerre très sérieuse qui a été menée et qui montre finalement qu'on ne peut pas vraiment parler de complot, évidemment, pour l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain. Il n'a pas cherché absolument le pouvoir tout au long des 20 années précédentes. Hein. C'est la situation qui fait qu'il arrive au pouvoir, en définitive.
Et puis, il était porté par ce mythe dont vous parlez, d'ailleurs.
Voilà,
Paul Reynaud, quand il l'appelle, dit le vainqueur de Verdun, etc.
Évidemment,
personne ne pouvait deviner ce qui allait suivre. Quand est-ce que ce mythe a disparu? Je suppose que c'est pendant la guerre, Didier Fischer.
Ah ben, le mythe s'effrite progressivement pendant la guerre, effectivement. Je vous disais tout à l'heure, à partir de 1941, on sent déjà un premier décrochage dans l'opinion publique par rapport au régime de Vichy. Hein. Alors là, c'est là que l'on peut faire la distinction entre maréchalisme et pétainisme. Maréchalisme, c'est l'adhésion à une image. Pétainisme, c'est l'adhésion à une politique. Alors, les Français étaient avant tout maréchalistes, plus que pétainistes d'une certaine manière, ce qui explique un décrochage quand même lent en ce qui concerne le mythe. Hein. Et on peut dire que l'image, en fait, du maréchal Pétain est une image écornée, abîmée, qu'à partir de 1943-44, au moment pratiquement au moment de la libération. C'est à ce moment-là.
Quand Pétain devient un traître pour beaucoup. Hein,
voilà, quand il devient un traître. Mais on ne prouve pas d'ailleurs à son procès qu'il y a eu trahison.
Il y a tous ceux qui l'ont suivi en 40, qui sont évidemment embarrassés de reconnaître ce qu'il a pu faire pendant la guerre.
Mais aujourd'hui aussi, il reste quand même une image encore qui n'est pas forcément une image entièrement négative. On l'a vu avec ses anciens combattants qui crient encore « Vive Pétain » en 96.
Écoutez, merci en tout cas Didier Fischer de nous avoir rappelé donc comment s'est construit ce mythe qui a porté Pétain au pouvoir en 1940. Vous le faites donc dans un livre aussi qui vient d'être publié chez Flammarion, Le mythe Pétain. À lire également Pétain et les Français, 1940-1951, ça c'est la suite de l'histoire, de Michel Cointet qui vient de paraître chez Perrin. Enfin, une histoire de l'armée française de 14 à nos jours de Philippe Masson, réédité en poche chez Perrin. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com.
C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Andreas Jaffré, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, archivina Raïssa Blankoff et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Marie-France Thivault.
Une émission de Patrice Gélinet.
Le programme de la semaine prochaine, lundi, un écrivain du siècle des Lumières, Fontenelle, mardi, les origines du monothéisme, mercredi, un des plus grands procès de l'histoire, le procès et la condamnation à mort de Louis XVI, jeudi, la naissance de la Ve République, enfin vendredi, entre les deux tours de la présidentielle, une histoire du suffrage universel. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, il est 14h30 sur France Inter, vous avez rendez-vous avec Chris.
Merci Patrice Gélinet, merci Stéphanie. Qu'est-ce qui sent bon ?
J'ai une petite fille, alors j'aime bien, j'aime bien les fesses de bébé, comme ça, le bon. Les fesses de bébé, j'aime bien la peau, j'aime bien la cuisine, en particulier ces cuisines un peu savoureuses dont Hippolyte m'a administré depuis 3-4 ans le goût samedi après samedi, et donc j'aime bien ces saveurs de coriandre, enfin tout ce qui me fait rêver un peu voyager, quoi, en fait. Mm-hmm.
Qu'est-ce qui sent mauvais ?
Je sais pas, je me bouche le nez quand c'est mauvais. J'ai pas. C'est peut-être tout ce qui est pollution, tout ce qui est. J'ai du mal à sortir du jardin, par exemple.
Est-ce que vous êtes célèbre ?
Non.
Catégoriquement ?
À force de dire quelque chose et son contraire, j'ai sûrement une petite notoriété, disons.
Notoriété dans son milieu, d'accord, mais moi j'avais jamais entendu parler de Jean-Pierre Barderie et je pense que je n'en aurais jamais entendu parler si je ne faisais pas partie du fan club du jardin d'acclimatation. Je vous explique si vous n'êtes pas parisien. C'est un jardin dans le bois de Boulogne où des générations de parents ont emmené leurs enfants jouer dans les baraques de foire, naviguer sur la rivière enchantée avec sa grande roue à eau qui fait peur quand on arrive à bon port, grimper sur des manèges où il faut attraper la queue du singe, se tordre de rire dans la galerie des miroirs déformants, prendre le petit train et manger des barbes à papa. Mais, car il n'y a jamais d'histoire absolument captivante quand il n'y a pas de mais le jardin s'étiolait et on n'y emmenait plus les enfants qu'en souvenir des jours heureux, jusqu'à ce que de nouveaux magiciens s'y infiltrent, dont un énigmatique et souriant Monsieur Pou, auteur de petits livres offrant au jardin en perdition sa légende. Qu'est-ce qu'on est sans légende ? Pas grand-chose. J'ai donc demandé à rencontrer Monsieur Pou. Et Monsieur Pou s'est présenté à moi sous l'apparence de Jean-Pierre Barderie, président directeur général du Jardin Magique. J'ai voulu en savoir plus. Et j'ai été aussi surprise que vous, portrait sensible d'un homme que je n'aurais peut-être pas eu l'idée d'inviter si je m'en étais tenue au début de l'histoire.
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs. La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. D'autres espèrent dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit. La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mets-moi quand je tiens, tiens. Mets-moi quand je tiens. Là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits.